une histoire dans le rétroviseur.
Le 10 mars 1906, au petit matin, une explosion se produit dans les houillères de Courrières, près de Lens. On ne le sait pas encore, mais cette catastrophe sera la plus dramatique de l'histoire de France. On dénombre plus de 1000 victimes. 1100 mineurs exactement y trouvent la mort, et le bilan aurait été bien plus lourd si les mineurs qui devaient embaucher ne s'étaient pas rués dans les puits et galeries pour retrouver des survivants et des blessés. Les secours s'organisent, malgré les risques. Chaque jour, des cadavres morts par asphyxie, déchiquetés par le coup de grisou, écrasés sous les gravats, sont sortis des décombres. Les jours passent et la direction des houillères considère qu'il est vain de chercher encore des survivants. Le travail doit reprendre parce que le business, c'est le business. Pourtant, le 30 mars, 13 mineurs refont surface et un 14e le 4 avril. Ils ont survécu comme ils ont pu, bouffant le cadavre des chevaux et filtrant leur urine. Mais entre-temps, tout le bassin minier s'est mis en grève, celui du Pas-de-Calais comme du Nord, mais aussi en Belgique, dans la Loire, le Gard ou le centre de la France. Les gueules noires ne veulent plus crever pour rien ou pour garnir les comptes en banque des actionnaires et des patrons. Parmi les syndicalistes les plus radicaux, comme le fougueux anarchiste Benoît Broutchou, ce n'est pas la fatalité qui a frappé Courrières, mais la cupidité. Cupidité des sociétés minières qui recherchent le profit plus que la sécurité des mineurs. Dans le viseur de Benoît Broutchou, il y a également le vieux syndicat, créé 20 ans plus tôt et suivant une ligne si modérée qu'elle est en passe de lui aliéner une bonne partie de la jeune génération de mineurs qui considère que c'est par la lutte et non la conciliation que les mineurs se feront respecter. Cette radicalité déplaît fortement au vieux Émile Basly, syndicaliste chevronné, ancien fort en gueule devenu paisible député socialiste et maire de Lens. Il incarne ce syndicalisme réformiste détesté par Benoît Broutchou. Dans le bassin minier, les anarchos font la chasse aux non-grévistes, tandis que le gouvernement exige le calme et le respect de la liberté du travail. Une enquête est ouverte pour dégager qui est responsable de la catastrophe, la fatalité ou les ingénieurs qui ont négligé la sécurité. Il faut surtout gagner du temps et calmer la colère de la population. La presse aux ordres dénonce la grève qui va entraîner une hausse des importations de charbon anglais et qui va ternir l'image du gouvernement défié par les gueules noires. Les jours et les semaines passent, le bassin minier est quadrillé par les forces armées, ce qui n'empêche pas les pillages et les affrontements. Le jeune syndicat appelle à l'action pendant que le vieux syndicat essaie de négocier avec les houillères. On compte bientôt plus de 20 000 soldats mobilisés pour amener l'ordre. Fin avril, les mineurs commencent à rendre les armes, l'activité reprend dans quelques puits. Le 5 mai, les derniers réfractaires votent la reprise du travail. Il faut dire que les leaders du jeune syndicat ont été jetés en prison et ainsi réduits à l'impuissance. C'est donc la répression qui a vaincu la grève générale des mines. Bien vite, les mineurs attribuent l'échec de la grève à la division syndicale. Pour eux, il faut réunir le vieux et le jeune syndicat, ce qui déplaît aux éléments révolutionnaires qui sentent que le syndicat unique profitera aux modérés. Finalement, une fédération nationale se met en place rassemblant des militants des deux organisations et aussitôt des démarches sont engagées pour l'affiliation de la nouvelle organisation à la CGT. Ce sera le cas 2 ans plus tard, au moment où la CGT voit sa direction échapper des mains des syndicalistes révolutionnaires victimes de la répression au profit d'une nouvelle génération bien moins radicale.
Alternant FM.